Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 6 novembre 2023. On est ensemble, nouvelle semaine qui commence, chères auditrices et auditeurs. Et au menu de cette émission, on va parler de quoi au programme? On va parler des Monégasques, eh oui, depuis son rocher, Monaco, l'ASM qui fonce tout droit vers, pourquoi pas, un probable titre, hein. On en parlera avec toute l'équipe de Time Sport ce soir et on parlera aussi de l'Olympique Lyonnais qui stagne malheureusement, et oui, encore une fois face aux Messins. Allez, on parlera aussi d'Arsenal, les Gunners, ça fait ton sourire ce studio de Beurre FM qui n'y arrive plus depuis deux matchs. On reviendra sur cette fameuse première ligue et Verstappen aussi avec son goudron et le championnat de la Formula 1, hein, cette Formule 1 et son record de victoire. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport, chers auditeurs et auditrices. On rappelle le débat du jour. Selon vous, faudra-t-il compter sur l'ASM? Eh oui, Monaco en championnat. Voilà. On compte peut-être avec les Aiglons de Nice, sans oublier aussi le Paris Saint-Germain et pourquoi pas encore l'Olympique de Marseille, mais un peu à la traîne encore une fois. Hein. Eh oui, on va en parler. Ça, c'est promis. Ça fait sourire aussi certains consultants de cette émission. Mais allez, sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport. Il est pour parler.
Et oui, il y a tant de choses à dire ce soir. On sera en compagnie, justement, de Benji. Bonsoir Benji, comment ça va?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Très heureux.
Eh ben nous aussi. Nouvelle semaine qui commence.
De débuter cette semaine avec vous. Encore un beau programme qui arrive. Donc très très heureux de parler football et parler même Formule 1 pour la première fois avec vous.
La Formule 1, c'est ça. T'es au programme de cette émission. Boula, bonsoir Boula. Comment ça va Boula?
Alhamdoulilah, tout va bien.
Ça va, tout va bien. Voilà, ça c'est Boula. Tranquillement. Voilà, Boula il a le sourire aujourd'hui. Ça c'est bien. Pourquoi? Il a fait la rencontre de Ryan. Comment ça va Ryan?
Exactement. Bah, écoute, ça va Bilal. Ça va très très bien.
Voilà, Ryan qui fait son retour. Il nous apporte le soleil en tout cas.
Exactement. Ouais, on essaie.
Sur la capitale, on essaie. Bon, c'est un peu mitigé. On va essayer, Ryan, hein, c'est promis. On aura un mot aussi concernant l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça lui a fait plaisir aussi cette victoire du Paris Saint-Germain avant de se déplacer en terre lombarde demain soir face au Milan AC Les Rossoneri. Allez, je m'adresse à toi, Solal, le réalisateur. Bonsoir Solal, comment ça va?
Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs et chères auditrices. Bah, c'est reparti, nouvelle semaine avec Time Sport.
C'est ça.
Des invités, mais incroyables. Un présentateur hors pair.
On est cool, franchement incroyable. C'est justement, c'est Monaco face à Brest en Ligue 1 Uber Eats. Ça fait sourire Benji, ça fait sourire aussi Boula, sans oublier aussi notre Ryan. Et Monaco, ben oui, qui doit un peu déranger ce trio en championnat, on le rappelle. Ouais. Nice, le Paris Saint-Germain et Monaco. Benji.
Pour l'instant, on fait pas peur.
Hein.
Ouais, non, mais moi je trouve qu'on a un Monaco qui a sa place pour le moment. Un Monaco, quand tu prenais du recul en début de saison, qui faisait pour moi partie des trois meilleurs effectifs de Ligue 1, qui a sa place dans le sens où elle met la pression sur le Paris Saint-Germain, même si je me fais pas trop de soucis sur une future victoire du Paris Saint-Germain. Pour le titre final. Mais on a un Monaco qui joue bien. On a un Monaco qui est très très réaliste, mais qui provoque des choses, qui provoque la réussite et qui a une très bonne gestion de ses temps faibles et de ses temps forts. Et c'est récemment ce qui a fait les très très bonnes équipes. Et donc pour le moment, elle s'appuie sur un noyau dur qu'elle construit depuis un petit moment. Donc c'est que du positif et j'espère qu'elle arrivera à mettre un peu la pression sur les places de devant pour arriver à augmenter encore ce niveau Ligue 1 et continuer à mettre la pression sur le Paris Saint-Germain.
Ouais, Ryan, réaction avec toi.
Franchement, on va pas se mentir, c'est une copie-collée des saisons précédentes que Monaco fait. C'est-à-dire qu'en début de saison, ils arrivent à gérer les matchs. Et puis après, juste après, on va dire, le mercato hivernal, ça commence généralement à s'effondrer.
Ouais.
Donc là, j'ai pas envie de porter l'œil à nos amis monégasques.
Ouais, attention, hein. Mais effectivement, aussi qui nous écoute.
On leur souhaite une grande saison, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est toujours la même chanson, mais on verra, il y a un beignet d'air avec 5 buts qui gère plutôt bien ses matchs. C'est vrai que le dernier match face à Brest, ça a été gagné, et comme l'a dit Pierre Lesmelou, il y a eu beaucoup de fautes, arbitrage et c'est vrai que c'était beaucoup en faveur de l'AS Monaco. Maintenant, on verra comment ça va se passer. C'est vrai que même moi, je reste sceptique, encore une fois, parce que c'est toujours, chaque saison, c'est la même chose.
Mais ils sont là, des fois. Ils sont là en début de saison.
C'est-à-dire que la saison passée, ils ont fait un bon début de saison. Ils ont terminé.
C'est un peu le Paris Saint-Germain, même en championnat.
C'est ça. Ben, ouais. Tu vois.
Ils ont une meilleure profondeur de banque que les années précédentes, peut-être, pour faire un peu plus de rotation.
C'est vrai.
Voilà, quand tu vois que tous les postes ont quasiment doublé et avec vraiment la qualité pour le coup, et notamment sur les postes offensifs. Donc peut-être ce qui leur manquait les saisons dernières en fin de championnat peut être compensé pour en laissant souffler les joueurs et les majeurs et qui pourrait leur permettre justement d'aller cette fois aller chercher un top 2, top 3.
On rappelle aussi on rappelle bien sûr le mercato qu'ils ont fait et qui était pas mauvais avec l'arrivée de Balogun, l'arrivée de Denis Zakaria aussi sur le milieu de terrain.
Ouais.
C'est pour moi en tout cas, c'est un bon mercato.
Ouais.
Maintenant encore une fois à voir parce que Balogun c'est compliqué. C'est début de saison, il a 3 buts malgré tout, il y a Golovin aussi qui a 5 buts qui arrive à bien gérer ses matchs. Mais bon, encore une fois, je veux pas porter l'œil à Monaco, donc forcément on va atteindre, mais moi je reste sceptique encore une fois et je vais attendre jusqu'à janvier, février, voire mars.
Justement, on va essayer de prendre par téléphone Adnan qui a composé le 01 53 48 3000, qui est consultant avec nous, on le rappelle. Bonsoir Adnan, comment ça va?
Bonsoir à tous.
Bonsoir Adnan.
Oui, ça va très très bien Adnan. On parle Monaco avant de faire plaisir à Benji pour parler de Lyon.
Et j'ai entendu certains chants sur lesquels je suis d'accord, mais d'autres où je suis un petit peu, pas très content de ce qui a été dit, notamment sur l'effectif de Monaco, sur le match à Brest. Alors, je crois qu'on a parlé d'arbitrage et effectivement, Liemelou a accusé un petit peu Monaco d'avoir été avantagé par l'arbitrage, mais Monaco aussi a subi beaucoup de fautes que l'arbitre a pas vu. Et moi, je voulais revenir aussi un petit peu sur l'effectif de Monaco.
Alors, justement.
Je sais pas si vous avez vu l'effectif de Monaco, mais par rapport à l'équipe qui a été mise hier en place, vous l'avez souligné, il y a Malogun, Golovin, Aklibouche, qui est justement un jeune prometteur. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que cet effectif de Monaco, effectivement, il allie jeunesse, expérience également, mais aussi physique. Et surtout, n'oubliez pas, ils ont changé de gardien. Il y a un changement de gardien qui a été très, très, très bénéfique pour eux. Et c'est une équipe qui ne va pas jouer l'Europe. Donc, pour moi, c'est vraiment un candidat sérieux au titre, carrément.
Ouais,
et même si les années précédentes, on disait que Monaco faisait des très bonnes débuts de saison et derrière, on s'appêchait un petit peu pour repartir de plus fort. Moi, je pense en tout cas qu'ils vont rester réguliers et voire même le trio de tête du championnat avec Nice et PSG. Pour moi, ça y est, c'est le trio qui va arriver au final. Maintenant,
tout le monde. Bah, Lyon, c'est oublié. Marseille, c'est oublié.
Lyon,
ça y est.
Lyon, c'est opération maintien. C'est possible.
Ouais,
c'est possible. Ouais, encore, c'est possible pour Real.
Je ne sais pas quelle équipe vous voyez revenir dans ce trio. Mais en termes de régularité, même Nice, c'est impressionnant ce qu'ils font et je pense vraiment qu'ils vont pas lâcher.
Ouais. Moi, honnêtement, Anan, je voyais vraiment l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas après, quand même, laisser le temps, comme disait Mathieu qui nous écoute ce soir.
Rennes,
Boula, peut-être réaction. Boula, réaction sur Monaco avant de partir sur le cas de Lyon.
Moi, ce que j'ai à dire sur Monaco, je pense que Ryan, c'est au niveau du recrutement. C'est un recrutement qui est fait intelligemment.
Ouais.
Avec des gros joueurs de qualité. Ryan. Bon, Golovin, c'est quand même un joueur. Ça fait 2 ans qu'il est là, 3 ans.
Ouais.
Et là, tu sens que c'est l'année où il va exploser, qui est en train d'exploser.
Ah, carrément.
T'as le petit asiatique là où.
Inamino.
Inamino qui est aussi une petite révélation.
Ouais.
Je pense que entre la qualité du directeur sportif de l'équilibre de l'équipe au niveau des talents, je pense que dans le recrutement, il est plus efficace un peu comme que Marseille.
Ouais.
Je pense qu'ils se trompent pas. Ça a l'air d'être des connaisseurs au niveau du football pour recruter ce qu'ils font. Après, ce qui fait la force aussi de Monaco, c'est les jeunes de qualité qui arrivent. Et c'est ce qu'il n'y a pas à Lyon ou c'est ce qu'il n'y a pas à Marseille. Et c'est ce qui fait la différence. Et puis tu regardes la valeur marchande des joueurs de Monaco au niveau formation, ça reste quand même un club qui travaille dans l'ombre au niveau formation et ils font venir des joueurs de qualité. C'est pour ça que ça fait 3 ans qu'ils tournent avec une qualité collectif et un groupe de qualité. Et là tu sens que dans les 3 premiers, maintenant mis à part Nice, je pense qu'ils auront du mal à un moment donné parce qu'ils ont pas mal de joueurs qui vont faire la Coupe d'Afrique et je pense que ça va être un moment où que Nice ils vont pêcher et je crois que c'est à ce moment-là que Nice se dérèglera.
Ouais, les Niçois, on verra aussi. Anan, on revient à toi, on a Fouad aussi au standard.
Oui, alors Anan. Une chose, je voulais juste souligner une chose. Hier, quand même, on a sur le banc, on a Ben Yedder et Camara. Camara, le fameux milieu de terrain qui a fait très mal au PSG l'année dernière, mais surtout dans les blessures et les suspendus, on a Van Dersen, Caio Henrique, Ben Yedder et Mbolo. C'est pour vous dire la qualité justement de cet effectif. Ils ont non seulement un 11 type qui est très très fort, mais ils ont une profondeur de banc qui est vraiment exceptionnelle. Donc là, je pense vraiment que l'équipe elle est assez équilibrée pour aller au bout et surtout titiller ce PSG qui, pour une fois cette année, n'est pas le PSG concurrent et qui écrase le championnat.
Oui. Exactement, c'est ce que j'allais aussi souligner. Ouais. Effectivement, c'est pour ça que je rejoins aussi.
Je rejoins Anan et
Benji sur ce point-là. C'est vrai qu'ils se sont renforcés offensivement et même au niveau du milieu de terrain. Et encore une fois, c'est vrai que Ben Seguir, c'est un joueur qui est très prometteur. Bon, malgré ses blessures en ce moment, qu'il a, c'est compliqué, mais en tout cas. Niveau effectif, ils sont solides et c'est ce qui peut en tout cas faire la différence avec les saisons passées.
Après, t'as le jeune Cliouche qui tourne très très bien, qui tourne en plein régime et qui tourne entre Monaco et les Espoirs. Même quand il est rentré la dernière fois avec les Espoirs, tu sens que c'est un joueur intelligent, qui a des qualités. Contre Marseille, je pense que c'est lui qui fait la différence. Et c'est ce qui est bien, c'est quand t'as des gros joueurs qui sont pas là et puis t'as les jeunes derrière qui arrivent et qui s'imposent, tu sens que il y a le potentiel de qualité à Monaco. Tu sens que il y a vraiment du banc. Je parle au niveau des jeunes, je parle pas de tous les joueurs d'expérience qu'ils ont sur le banc de touche. Moi, ce qui m'inspire le plus chez Monaco et ce qui fait la différence, c'est les jeunes de qualité.
Ouais. Mais c'est ce mélange entre le recrutement intelligent qui est venu combler quelques manques, qui est venu renforcer justement ce banc pour justement arriver à une fin de saison beaucoup plus forte, où tu peux faire des rotations, où tu peux être toujours compétitif et surtout pour venir en aide aux joueurs qui viennent à se blesser, parce qu'il y a quand même tous les joueurs de talent qu'on a évoqués sont quand même très sujet à se blesser aussi. Et donc c'est très bien de ce côté-là d'avoir renforcé le banc pour justement ne pas te retrouver en fin de saison comme ça a pu t'arriver l'année dernière ou il y a deux ans, où t'as beaucoup de joueurs majeurs qui sont blessés, où ton équipe a de plus en plus de mal à tourner. Et donc c'est vrai que Golovin, par exemple, c'est un joueur qui peut aussi se blesser facilement, et si tu perds Golovin, c'est aussi plus la même équipe, mais t'as des joueurs derrière qui peuvent venir compenser et faire des efforts pour venir compléter ce milieu de terrain.
Le 0153483000, on est avec Fouad. On va garder Anan, c'est premier, pour revenir sur le cas de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Fouad.
Bonsoir à tous, comment allez-vous?
Ça va très très bien, Fouad. On vous écoute.
Moi, je pense qu'on s'emballe un peu trop avec Monaco.
Allez.
Je pense qu'on s'emballe un peu trop. Parce que concrètement, ils ont joué qui depuis le début de saison? Ils ont joué Nice, ils ont perdu. Ils ont joué Lille, ils ont perdu.
Ryan, il est d'accord avec vous, ouais.
Ils ont battu Lens, mais c'était en début de saison. Bon, ils gagnent 3-0, je crois, en plus. Mais c'était Lens encore orphelin du départ de Sekou Fofana. Encore en état de choc. Pour moi, je pense que c'est un peu tôt. Je vais peut-être européen à la fin de saison, mais troisième, j'y crois pas trop, en fait. J'y crois pas trop. Ouais. Parce qu'en fait, là, concrètement, ils n'ont pas encore de fait de gros matchs contre une grosse équipe, une grosse prestation. Au contraire, ils ont perdu contre Lille et Nice. Ils ont battu Marseille, mais...
Ouais, c'est ça. Marseille.
Dans la difficulté.
Dans la difficulté, 3-2, c'est ça. 3-2.
Ils ont fait un nul à Lorient.
Ils ont perdu face à Nice.
Ouais, ils perdent contre Nice à domicile, en plus.
C'est ça, tout
après,
à fait.
Monaco, ils sont jamais à domicile. Mais voilà, par contre, je vois plus un réveil de l'OM.
Ouais.
Lyon, pas encore, mais peut-être pas du tout, mais bon.
Un réveil de l'OM.
De l'OM, oui, il a dit.
Un réveil de l'OM, lui, mais pas de l'OL.
Ouais. Mais tu parles quand là, après le mercato ou avant le mercato?
Non, moi je parle sur une saison. Marseille ?
Ah non, mais je parle pas sur une saison. Je te demande si c'est après ou avant. Parce que si c'est avant, je pense pas qu'ils ont les qualités. Tu vois bien qu'au niveau offensif, contre Lille, ils avaient du mal.
Non, il y a les qualités. Il y a les
qualités. Non, il n'y a pas du tout de qualité.
Il n'y a pas du tout.
À part si demain, ils arrivent à faire transférer Boilani de Nice à Marseille, là, tu prends des vrais joueurs de football et des joueurs de qualité.
Aubameyang, il n'est pas à son niveau. Ou alors, il est plus au niveau.
Moi, je suis d'accord. C'est pas qu'il est plus au niveau, c'est que tu sens qu'il n'y est pas. Gondolbia, c'est moyen. Bah, tu vois bien Ounaï, il joue pas. Il est au-dessus. Il est au-dessus de.
Il a lancé le débat sur Marseille.
Moi, je pense que
les joueurs de les valeurs marchandes de Marseille.
Eh ben, ce qu'on va faire, on va garder Fouad. On va vous garder. Il y a pas de problème. On va revenir rapidement sur l'Olympique de Marseille sans oublier l'Olympique Lyonnais avec Adnan. À de suite, chers auditeurs.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi soir, lundi 6 novembre, on le rappelle, 20h18. Vous nous écoutez à travers la France, notamment du côté de Bastia, le 90.8, sans oublier aussi Rouen. Un petit clin d'œil aussi à Mohand que vous pouvez retrouver chaque dimanche 18h, 20h dans Foot de Sport. Voilà, on nous écoute à Rouen et son agglomération 98.7. Sans plus tarder, on rappelle le numéro du standard qui est le 01 53 48 3000. On va récupérer Fouad, mais avant ça, allez, le petit jingle.
Time Sport. La parole des sociaux.
Elle est forte, justement. On la donne aussi à Nan, notre journaliste consultant, qui est toujours là. On va le faire réagir, c'est promis, sur Lyon, rapidement. Il a déchaîné les foules, hein. Et ce studio, c'est Fouad, hein, pour revenir sur l'Olympique de Marseille. Attention, parce que Ryan, il est assez chaud sur Marseille, Fouad. Ouais.
J'aurais pu être chaud sur Marseille, mais pas dans le même sens du terme. Ah bah ouais. Moi, je suis parisien. Cette année, il faut dire ce qu'il y a. Marseille, ils ont besoin d'être stimulés. Ils ont un stade, ils ont un coach. Et ils sont premiers en Europa League. Alors qu'on les voyait tous, ne me dites pas le contraire, on les voyait tous derniers du groupe, éliminés dès les premiers matchs.
Une équipe qui devait jouer à la Ligue des Champions, à la base, quand même.
Brighton, quand il y a eu le tirage au sort, Brighton, Ajax et AEK Athènes, on s'est tous dit quoi ? AEK Athènes et Marseille, ils sont en train de se regarder droit dans les yeux. Bon, faut qu'on finisse pas dernier.
Brighton, tout le monde s'est ambiancé sur Brighton, alors qu'ils avaient fait une saison, ils avaient fait une très bonne saison, certes, mais le problème, c'est ça le problème c'est des médias, c'est que tout le monde s'enflamme sur un club qui va faire une bonne saison, certes, et puis après, ils vont croire que les saisons, ils vont enchaîner des 4-5 saisons comme ça. Alors qu'à un moment donné, il faut rester lucide, il faut garder la tête sur les épaules et se dire que Brighton, c'est une saison de passage.
D'une manière générale. Ils font des bons trucs en Coupe d'Europe, Europa League en tout cas.
Coupe quand même, tu vois, Brighton.
Ligue des Champions, bon d'accord, ces derniers temps, les clubs existent, Manchester City. Les clubs anglais, d'accord, ces derniers temps, en Ligue des Champions, c'est pas ouf. Mais en Europa League, je trouve qu'ils se débrouillent bien. C'est. Qui est-ce qui gagne l'an dernier la Conference League? C'est pas West Ham.
Ouais, comme anglais. La Conference League, aussi, je crois que c'est un club anglais qui l'emporte. C'est West Ham, je pense.
C'est West Ham,
ouais. C'est West Ham.
Après, l'Ajax, ils sont derniers de faire.
L'Europa League,
c'est
la finale en dernier. L'Ajax,
c'est une poule catastrophique.
L'Ajax, cette année, d'accord. L'Ajax, ils sont.
C'est ridicule.
Ils sont un peu comme l'OL.
Athènes, bon. Ouais. Tu dois être supérieur. Enfin, c'est l'Olympique de Marseille. Pour moi, tu te bats avec Brighton pour la première place.
L'Olympique de Marseille, c'est le favori du groupe.
Avec Brighton, pour moi, je les mets dans le même lot, tu vois.
Vous dites ça avec du recul. Mais quand le tirage au sort, avec Brighton et l'Ajax.
Non, pas du tout.
Parce que je t'explique.
Brighton,
tout le monde s'est ambiancé sur Brighton. Regarde, Brighton, s'ils n'avaient pas fait une saison pareille l'an passé, personne n'en aurait parlé. Parce qu'ils ont fait une bonne saison. Les gens se sont dit Brighton, Mopé, tout ça, ils se sont tous ambiancés dessus. Mitoma, pas Mitoma à gauche.
Ça reste quand même, par rapport à la saison qu'ils ont fait Brighton, ça reste quand même une équipe cohérente par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Tu peux pas, à un moment donné, il y a des clubs qui travaillent, qui sont dans la réflexion quand je vois Marseille et l'Ajax, c'est écœurant des clubs comme ça. Que le boulot, il est vraiment pas fait au niveau de la gestion du directeur sportif. Après, faut pas vous demander les problèmes qu'il y a à Marseille ou les problèmes qu'il y a à l'Ajax. Moi, j'ai connu l'Ajax, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils avaient 18, 19 ans. Il y a plus cette aura de travail. Il y a plus ces valeurs. Marseille, aujourd'hui, tu regardes, il y a qui comme joueur de plus-value? Il y en a, il y a personne.
Ouais, il peut même pas. Enzaï, il est mal Enzaï. Ouais. Il peut.
Alors, mais non.
Mais au contraire,
Aminarit aussi.
Le seul qui a, c'est Aminarit. Le seul qui a, c'est Aminarit. Le seul qui a comme joueur de plus-value, c'est Aminarit. Parce que aujourd'hui, le potentiel qualité d'Aminarit.
Collectif. Pour moi, l'OM, c'est pas des individualités. Pour moi, l'OM, les années précédentes, on voit, il y a tel joueur, il y a Sanchez, il y a un tel. Là, pour moi, cette année, c'est peut-être la seule année où je vois l'OM comme un collectif. Et je pense que la mayonnaise, quand on va prendre, ça va passer devant Monaco.
Déjà pour qu'ils apprennent, faut minimum 2 ans de travail hein, pour que la machine se mette en route. Hein. Faudrait un vrai actionnaire déjà. Un vrai actionnaire.
Incroyable, et ça prend la mayonnaise.
Ouais. Ah ben justement, on a pas mal de réactions aussi sur l'antenne de Beurre FM, notamment on a Fabrice, on a Fouad aussi, on l'a entendu, on va revenir à Nan, il y a aussi Samir, il y a aussi Ahmed qui écoute, qui réagit, notamment Boula, c'est vrai qu'on...
Achille qui a une réflexion Achille, au niveau du football qui est très pertinent.
On va l'avoir Achille en fin d'émission, y compris avec Nasser du côté de l'Italie. On remercie Fouad, peut-être il va rester avec nous parce qu'on va enchaîner après l'Olympique de Marseille parce que c'était la petite pause concernant la cité phocéenne et son club. C'était aussi les hommes de Fabio Grosso et certains supporters, notamment peut-être les Bad Gone ou encore d'autres, se sont adressés à John Textor Benji, le président de l'Olympique Lyonnais, l'investisseur américain, et sont pas très contents ce début de saison des Lyonnais.
Il y a vraiment de quoi de pas être content. Et quand je dis depuis des semaines et deux semaines sur cette antenne que l'Olympique Lyonnais joue le maintien et qu'on me riait au nez depuis des semaines et des semaines, au bout d'un moment, il faut, enfin comme on dit, les faits sont têtus. Et là, au bout d'un moment, on a un Lyon qui est dernier à 4 points, qui est très très loin de pouvoir se sauver par rapport au 16e et au 15e. Donc c'est vrai que c'est un début de saison qui est extrêmement compliqué. On savait que ça allait être compliqué à ce point-là, je pense pas. Et évidemment. Textor a sa part de responsabilité, mais comme beaucoup de gens dans l'organigramme de l'Olympique Lyonnais, les joueurs aussi, mais la principale faute de Textor, et là où je peux rejoindre les Bad Gones et les supporters de l'Olympique Lyonnais, c'est la gestion de Laurent Blanc. C'est la gestion de Laurent Blanc cet été, où tu dois te séparer de Laurent Blanc pendant l'intersaison, dès l'été, puisque tu avais déjà laissé sous-entendre que le profil de Laurent Blanc ne t'intéressait pas. Et si tu te séparer de Laurent Blanc avant l'été, tu aurais pu peut-être vendre un projet et aller chercher un entraîneur avec plus d'ambition, avec un peu plus de galon, et peut-être faire un début de saison bien meilleur. Alors je dis pas qu'on aurait été européen, mais on aurait pu au moins ne pas être dans la catastrophe dans laquelle on est, parce que là, pour vendre ce projet d'Olympique Lyonnais à un nouvel entraîneur, ça risque d'être extrêmement compliqué.
Ouais, ça reste dur quand même.
C'est compliqué à Lyon. Pour la bonne raison que la cellule de recrutement de Lyon, elle est pas faite dans le club, elle est faite carrément à l'extérieur avec tous les clubs qu'ils ont en parallèle. Et la gestion de Lyon, je pense pas que Textor il a à voir quelque chose. Je pense que ça fait des années que ça dure le problème lyonnais. Il date pas d'aujourd'hui. Je pense que le départ de Fekir déjà, il a jamais été remplacé.
Il aime bien Fekir.
C'est pas que j'aime bien Fekir, c'est que
moi aussi j'aime bien Fekir.
Il a été vendu 20 millions. Pourquoi il a été vendu 20 millions
alors que t'avais une offre de Liverpool à 60 millions l'année d'avant,
voilà. Mais déjà il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Je connais bien le sujet de ce joueur. Dis-moi qui l'a remplacé. Parce que quand tu fais partir un joueur comme Fekir, tu le remplaces par quand même un truc. C'est un joueur qui n'a pas été remplacé. T'as Julinho qui a ramené 2 super joueurs. Bah, qu'est-ce qu'il a fait Olas pour équilibrer le budget? Les a vendus. Ça veut dire que tes gros joueurs, tu les vends. L'équilibre de l'équipe, au lieu de rajouter des joueurs de qualité pour construire ce club. Alors, mais Olas, faut que tu saches que Textor, je pense qu'il est pas responsable de la gestion du football à Lyon. Parce que celui qui est responsable, pour moi, le responsable, c'est Olas. Parce que quand il a écarté tout le monde, les Florent Maurice, il a écarté tous les gens du centre, même un mec comme Bernard Lacombe, t'écartes un mec comme Bernard Lacombe, tu le remplaces par qui? Tu l'as remplacé par un mec qui faisait du business. Et le problème de Lyon, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait des business, ils ont fait venir des trucs, ils étaient collés à des agents. Alors, au niveau de la gestion,
on va revenir à Nan.
Je ne suis pas dupe de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Et t'as le même problème à Marseille. Ouais. Aujourd'hui, t'as des clubs qui savent travailler, c'est me gérer. Tu prends Campos, Ramos aujourd'hui, il fait mal à Enrique. Tu sens que la qualité des joueurs, ils correspondent au coach. Il y a une cohérence. Et cette cohérence, elle n'est pas faite ni à Lyon, ni à Marseille. C'est les deux gros clubs français. Et ce qui est dommage, c'est que dans cette gestion, ben, ils sont en train de subir cette mauvaise gestion depuis des années.
Justement, le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est un petit blagueur, hein, mais là, c'est sympa. Il disait que le problème à Lyon, c'est qu'ils ont qui détiennent Textor. Je sais pas s'il fait référence à Lex Luthor, mais pas Superman. Mais pas Superman, voilà. C'est un amoureux des DC Comics, oui.
Moi, j'ai trouvé une petite similitude entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que la gestion est catastrophique. Ouais. C'est vrai que, comme l'a dit Boula, à Lyon, quand on a un joueur comme Fekir, derrière, on se doit de le remplacer. Quand on a un joueur comme Aouar, aussi, on se doit de le remplacer. C'est des joueurs qui, pour moi... C'est des joueurs qui, pour moi, doivent être absolument remplacés immédiatement, parce que c'est soit on les garde encore un peu et puis on essaie de faire de la plus-value au fil des saisons, ou soit effectivement on les remplace pour essayer d'avoir des joueurs. On a eu Ryan Cherki, là on voit qu'en ce moment Ryan Cherki, c'est très compliqué aussi avec Fabio Grosso. Il y avait Amin Gouiri aussi, ça avait été un peu compliqué aussi avec la gestion d'Amin Gouiri. On a vu Laurent Blanc qui lui a pu un peu essayer de gérer le jeune Ryan Cherki, a essayé de faire de son mieux pour essayer de le gérer. Ça a plutôt bien marché au début. Là, il y a un nouvel entraîneur. Je pense qu'il y a aussi cette instabilité qui roule sur Lyon. Et pour moi, personnellement, il y a une similitude avec la gestion de l'Olympique de Marseille. Juste la différence, c'est qu'à Lyon, le recrutement est beaucoup plus intelligent qu'à Marseille.
Tu as deux joueurs que tu dois jamais vendre. C'est Barcola et Lukeba. Même s'il veut partir. Aujourd'hui, t'as pas. La preuve, tu veux partir, ils ont 3 points. C'est-à-dire que tu te rends compte, si tu descends en D2, l'argent que t'as pris pour les départs, tu te retrouves dans une situation où que tu vas être obligé d'investir, de réinvestir pour essayer de récupérer des joueurs de qualité. Alors, moi, je préfère le garder, Barcola et Lukeba, et les revendre 80. Comme à l'époque, c'était comme ça.
On revient à Fouad, justement. Réaction sur l'Olympique Lyonnais. Adnan, on va le retrouver aussi.
C'est un peu dur quand même de comparer Lyon et Marseille, parce qu'il y a un club qui est dernier et un club qui est deuxième. Là, c'est un peu dur. Moi, je comparerais plus Lyon avec Chelsea, quand ils ont ramené le président, là, comment il s'appelle, enfin, quand il est venu, Ted Boyle. Lyon, j'ai l'impression que c'est pareil. On va essayer ça. Non, ça marche pas. Bon, on va essayer ça. On va essayer ça. Tout soit contre-temps et un peu aller au pif. Moi, j'ai l'impression que les deux présidents de club, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas grand-chose au foot, en fait, qu'ils sont venus dans une mode. La Coupe du Monde aller aux États-Unis la prochaine. Ils se sont dit, allez, on va faire un peu d'argent, on va se mettre là-dedans. Mais ils ne savent pas dans quoi ils ont mis le nez, et j'ai l'impression que c'est le flou. Il n'y a pas, il y a pas de capitaine à bord, il n'y a rien du tout. Et ils sont en train de faire du grand n'importe quoi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais en effet, au niveau du recrutement, du coach, le timing pour changer de coach, il a ramené Grosso. Bon, déjà, en France, je pense que ça a du mal à passer, parce que c'est lui qui met le pénalty de la victoire en 2006.
Il vient parce que c'est un ancien Lyonnais.
C'est un ancien lui-même, mais bon, ça explique pas tout. C'est...
Après, il faut
mettre n'importe qui alors.
Ils font venir à la cellule recrutement, il a fait
combien de saisons à Lyon, Grosso?
C'est le recruteur des pros.
Il a fait combien de saisons à Lyon? Dans ce cas-là, il négocie aussi ça.
Ouais, c'est vrai. Ouais, non.
Mais moi, je suis d'accord.
Il est d'accord, Benji. Il est d'accord. Ouais.
Il n'a pas une légitimité comme. C'est pas comme si je ramenais Rai au PSG.
C'est incomparable. On parle de quelqu'un qui avait une saison et demie à l'OL. Donc
moi, tu sais, pour moi.
Ils ont ramené Grosso comme si c'était le patron de l'OL. Mais
pour moi, Fouad,
il y a une Ryan qui vous répond.
Il y a une gestion qui est un peu aléatoire, un peu. C'est un borgne en fait. Il est pas aveugle, mais il voit pas très bien.
Je vais te dire, pour moi, tu sais, c'est une mauvaise idée de ramener des anciens joueurs pour diriger un club dans lequel ils ont joué. Pour moi, c'est une mauvaise idée parce que généralement, ils font jouer les émotions avant tout, et pour moi il faut un mec qui n'a pas de relation directe avec le club. C'est très rare ce qui réussit, c'est très très rare.
Il y en a un qui a pas de club qui est intéressant et qui est d'Alès. et qui a fait un gros travail à Rennes, c'est Sabri Lamouchi.
Lamouchi.
Et tu, quand tu vois ce potentiel mal, qualité de coach, connaissant bien la maison lyonnaise et les qualités des jeunes et la qualité de ce qui se fait de bien en Europe, je pense que moi je discutais avec Laurent il y a pas longtemps, il y a 10 jours, il m'expliquait qu'un mec comme Cherki, je suis obligé, il est dans l'obligation de le faire jouer par rapport à son talent.
Pour les auditeurs et les auditrices, c'est... Laurent, c'est
voilà, monsieur c'est, Laurent. C'est là où les clubs de coach, c'est des
après t'as une gestion Laurent Blanc par rapport au côté génie de Fekir, où il sait très bien qu'il peut lui faire une étincelle et quand tu regardes aujourd'hui c'est le football avec une discipline.
Je suis d'accord. L'Olympique Lyonnais maintenant, en gros, c'est une multinationale. Là, je dis qu'on
fait jouer carrément.
Pour le montrer, comme ça, on le vend, on gagne de l'argent. Voilà, c'est ça. Ils montrent leur produit, en fait. Voilà, c'est notre produit. Regardez comment il est bon, achetez-le.
Mais c'est pour ça qu'ils
font du frère américain, mais ils font du trading. C'est leur but de prendre des clubs, de faire du trading.
Moi, je trouve que Jean-Michel Aulas, il a sa part de responsabilité.
Bien sûr, il faut. Alors, oui.
Moi, je suis d'accord. Aulas, il a sa part de responsabilité dans ce désastre.
Benji, mais évidemment que Jean-Michel Aulas a sa part de responsabilité là-dedans. Enfin, ça fait quand même un bon petit moment qu'on voit l'Olympique Lyonnais couler petit à petit. Et ça fait depuis, on va dire à peu près depuis l'ère Genesio, où on voit au fur et à mesure l'Olympique Lyonnais commencer à descendre et commencer à ne plus pouvoir valoriser ses joueurs, commencer à ne plus rien proposer tactiquement. Et t'as un enchaînement de très mauvais choix que de Jean-Michel Aulas dans la direction et des gens dans l'organigramme qu'il pose, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans les joueurs, et que ce soit surtout le seul bon choix qu'il fait, c'est de mettre Joligno en tant que directeur sportif. Ouais. Tu dois, ou t'es dans l'obligation, dans la situation dans laquelle t'es à ce moment-là, de lui laisser les points pouvoir dans le recrutement, puisqu'il a des réseaux et qu'il avait fait des très bons choix, qu'il avait une vision qui était très bonne et avec lequel il pouvait travailler main dans la main avec son entraîneur. Puisque si un club, si ta direction sportive qui ne travaille pas main dans la main avec ton entraîneur, ça ne peut pas marcher.
En tout cas, le seul mec,
est-ce qu'il a été remplacé de Paille?
Je t'explique. Il y a un président qui est une épée. Moi, je trouve que c'est Gervais Martel qui l'a mis en place. Comme Gervais, il a été chercher le président de Lens. Quand tu regardes sa façon de travailler au président de Lens, il est même en discussion pour essayer de racheter le club. Quand tu vois ce président-là, tu sens qu'il donne les clés à Arnaud Poulle, au coach, au directeur sportif. Tu sens qu'il y a un travail cohérent de fait qu'ils ont fait depuis 2-3 ans. Ouais. Regarde le club, comment il fonctionne et comment il marche. Malgré qu'ils n'ont pas la même équipe que l'année dernière, tu sens que quoi qu'il arrive, il y a un déclic de résultat qui va arriver.
Merci, Boula.
C'est ce qui fait la force d'un président.
On va marquer une courte pause, Boula. On va revenir, c'est promis, avec Fouad Zi. Vous restez encore avec nous, mais on prendra le chemin de la première ligue avec les hommes d'Arteta et les Gunners, les canonniers londoniens. Voilà. On parlera aussi de cela avec Adnan, qui est toujours avec nous, justement. Il ne nous a pas lâché, Adnan. Eh oui, il a dit Boula, il raconte de belles choses aussi, mais j'aimerais aussi raconter d'autres choses sur l'antenne. C'est promis, on va le reprendre au 0153483000, sans oublier aussi le Grand Prix du Brésil de Formule 1.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, pour la dernière partie, 20h36, toujours en compagnie. Allez, on est avec Nasser, sans oublier aussi Fouad qu'on va faire réagir. On retrouvera en fin d'émission Nasser. Il va nous teaser l'émission de demain, mais aussi la rencontre phare entre le Milan AC et les Rossoneri du côté de San Siro face au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Allez, sans plus tarder, on aborde encore du football avant la Formule 1.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, défait face à Newcastle et Magpies dans le même groupe que le Paris Saint-Germain, 1-0 ce week-end dans un communiqué publié sur le site officiel du club des Gunners, hein, Benji. Arsenal a indiqué apporter son soutien à son entraîneur qui n'est autre que Mikel Arteta après ses propos de l'arbitrage, de la rencontre entre Newcastle et les Gunners se disputaient ce samedi en première ligue. Tant de choses à dire, deux défaites quand même.
Oui, deux défaites, mais quand tu prends la défaite de ce week-end face à Newcastle, on a quand même vu un Arsenal qui était convaincant dans le jeu, et c'est aussi la marque de Mikel Arteta, fidèle à ses principes. On sait comment ses équipes jouent, on sait comment elles peuvent perdre aussi, et c'est ce qui s'est passé ce week-end. Alors moi, j'aime pas parler d'arbitrage, vous le savez, je mets rarement la faute sur les arbitres, et donc là, je pense qu'on a vu un Arsenal convaincant, mais un Newcastle très opportuniste qui a réussi à à bien jouer le coup et à mettre en porte-à-faux cette équipe des Gunners, qui malgré tout fait quand même un très bon début de saison, qui n'est peut-être pas aussi bon que le début de saison de l'année dernière, qui était vraiment absolument fantastique. On se rappelle que ça joue le titre jusque dans les deux dernières journées, jusque dans la dernière journée même de Première Ligue. Donc c'est une équipe qui est toujours en construction, c'est une équipe qui est toujours en train de se former autour autour de son entraîneur et qui propose quand même de très belles choses. Moi je sais que je comprends du coup le soutien du club sur Mikel Arteta, parce que Mikel Arteta a reconstruit quand même de manière absolument fantastique ce club des Gunners en s'appuyant sur un haut de garde qui est fantastique et qui est dans un rôle que je trouve qui est absolument parfait, dans lequel je le voyais pas en début de sa carrière, dans un rôle de premier harceleur, de premier récupérateur, à la fois de créateur, de finisseur, que je trouve absolument, je le trouve exemplaire dans ce rôle-là. Donc c'est une équipe qui marche ensemble et qui du coup perd ensemble par un moment, mais c'est une équipe moi que je trouve très bien et il faut pas s'inquiéter. Ces deux dernières défaites ne sont pas alarmantes. Il y a eu des victoires contre City cette saison, il y a eu des victoires contre United, il y a eu de très belles victoires qui étaient plus convaincantes que la victoire de Newcastle ce week-end face à Arsenal, qui, je le rappelle, Arsenal a quand même fait, selon moi, une nouvelle fois une meilleure rencontre que Newcastle. Malheureusement, la victoire n'est pas au bout.
Les médias, ils ont tendance à... Quand tu perds deux matchs, surtout des mecs comme Martel, non mais quand je te dis les médias, en général, c'est vrai, t'es compatriote là, t'es compatriote média.
C'est ça. Il y a pas de problème.
Le problème d'Arsenal, alors, c'est un club qui est construit sur depuis 4-5 ans. T'as Arteta qui est là.
Laisse travailler.
L'actionnaire, le président, qu'est-ce qu'il fait? Il est intelligent. Il sait ce qu'il veut.
Ouais,
quand
sereins.
Tu regardes, tu perds deux matchs, mais tu regardes. L'équipe a vaut combien aujourd'hui en plus-value? Alors, et quand tu regardes la plus-value de l'équipe, comment qu'un président il peut se séparer de... Et la différence entre les Anglais et la France, c'est que là-bas, c'est les managers, ils sont managers généraux du club. C'est-à-dire qu'Arteta, c'est le manager du club. C'est lui qui gère tout le club. Il sait ce qu'il fait, du début jusqu'à la fin. Ils ont une façon de travailler qui est différente de la France. La France, t'as le président qui commande, du recrutement. Ouais. Même le président, il va te dire, tiens, fais jouer lui. Je veux dire, il y a une gestion qui
le lien entre l'entraîneur et puis,
après, les gars, faut pas oublier le nombre de blessés qu'il y a aussi à Arsenal. On oublie bien sûr Gabriel Jesus qui lui s'est blessé il y a quelques matchs de ça. Il y a Partey aussi, Thomas Partey qui s'est blessé, Martin Odegaard. Enfin, c'est des joueurs malgré tout qui sont titulaires indiscutables.
Il y a 3-4 joueurs
dans le milieu de terrain. Bon, on a Declan Rice qui lui arrive à porter ce milieu de terrain malgré tout en sentinelle, il est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ces joueurs blessés, ça te rajoute un poids en plus, parce que malgré que Nketa arrive à plutôt bien attaquer, plutôt bien jouer, moi je pense qu'il manque encore c'est dommage. Moi je trouve que Gabriel Jesus par exemple, très sincèrement, il est bon, hein, mais je trouve que c'est dommage de l'avoir choisi lui plutôt que, moi je pense que j'aurais peut-être gardé la casette à la place de Gabriel Jesus. Parce que aujourd'hui, Gabriel Jesus, il passe ses débuts de saison à être blessé, à être sur le banc. Donc c'est compliqué aussi. C'est un très bon joueur. Même à Manchester City, c'était compliqué à la fin. Pour le coup, Arsenal, faut attendre. Comme l'a dit Benji, faut attendre. On verra dans les prochains jours.
Ryan, t'as expliqué exactement au niveau des trucs. Mais par contre, quand tu prends Gabriel Jesus à la place de la Gazette, quand tu vois aujourd'hui la Gazette, il est moussé. Tu prends que.
Il est moussé dans un club moussé.
Non, mais tu peux pas. À un moment donné, le problème, c'est que tu peux avoir des joueurs.
Il claque 25 buts la saison passée, alors que Lyon est aussi catastrophique. Enfin, je veux dire, c'est un attaquant malgré tout. Moi, je pense qu'il était pas mauvais, mais je pense qu'à Arsenal, c'était compliqué parce qu'il était affilié avec Aubameyang. Il est avec un autre attaquant, c'est compliqué.
Ryan, je suis d'accord avec toi, mais quand tu regardes Ryan, dans son intelligence, comment t'es Arsenal ? Lyon, c'est le bordel, tu retournes à Lyon. Je sais pas, dis-moi ta progression au niveau réflexion du football mondial. T'as toutes les qualités, c'est un joueur de qualité que j'aime beaucoup, la Gazette. C'est un joueur qui tourne entre 18 et 25 buts. Comment tu peux aller dans un club comme Lyon? Je sais pas combien il touche, mais je trouve ça aberrant. Aujourd'hui, tu regardes aujourd'hui, on est en train de le critiquer. On va critiquer
il y a le côté aussi émotion, il y a le côté où t'as envie de soutenir le maillot qui t'a fait débuter. Ça peut s'entendre aussi.
C'est vrai.
Il est jeune encore.
Formateur.
Ah, il est plus sur la fin de sa carrière, sur le début de sa carrière.
On retrouve le Fouad.
31, 32.
C'est jeune pour un
buteur. On retrouve Fouad concernant les Gunners d'Arsenal avant de parler de Formule 1. Oui, Fouad.
Arsenal, moi je vais être honnête, hein. Il y a deux saisons, j'ai été le premier en direct sur sur Time Sport à dire Arteta il a trop de crédit. Arteta a trop de crédit. Bon, au final, ça a payé. Arsenal, il n'y a rien d'inquiétant. Ils ont deux défaites, certes, mais ils sont à leur place. Là, avant le match de Tottenham, je crois que les quatre premiers se tiennent en trois points. Parmi les quatre premiers, il y a Tottenham, qui est entre guillemets pas à leur place comparé aux trois autres, qui sont Arsenal, Liverpool et Manchester City. Mais moi, j'aime bien Arsenal. Franchement, la continuité, elle est bien. Par rapport à l'an dernier, je crois que sur le 11 de départ, il n'y a pas trop de changements. Declan Rice, peut-être. C'est tout, non?
Ouais, c'est ça.
Moi, franchement, Arsenal, je ne sais même pas pourquoi on en parle, en fait, parce que pour moi, ils n'ont pas à en parler là-bas. Ils ont perdu, certes, contre Newcastle, mais c'est Newcastle qui tourne bien. C'est Newcastle comme 4-0 PSG.
Il y a Avert aussi, Avert qui est
pas
qui est titulaire, qui était titulaire du
week-end. Il y a Jorginho aussi, qui lui arrive malgré tout petit à petit, mais bon, voilà, c'était pas le mot.
Mais ouais, Arsenal, ça tourne bien, il n'y a pas à s'alarmer.
On va pas s'alarmer.
On s'attendait plus à ce qu'il va passer plus tard.
Ah bah, voilà, Fouad, on va essayer de vous faire plaisir. Fouad, on va essayer de vous faire plaisir.
On ira boire un verre chez Poule au bar à Val de Fontenay avec Ossine.
Fouad, il est là.
C'est un peu loin pour moi, mais pourquoi pas.
Fouad, parce qu'il est là, c'est loin, mais il viendra aussi dans ce studio. Et ça, c'est promis. Parce qu'on laisse la parole aussi à nos auditeurs, à nos auditrices. Justement, Fouad, il va rester avec nous parce qu'on va essayer de teaser ce match-là de demain soir, phase finale de la Champions League, avec Nasser au standard. On l'a pas oublié. Place à la dernière rubrique avec la Formule 1 et on part sur le Paris Saint-Germain et son match face au Milanais.
Time Sport, le mode pressing.
Voilà, j'aime bien quand Boula me regarde de cette façon-là. Ça me fait plaisir.
Le regard amoureux de Boula.
Non. Ça veut dire que je suis assez cool. C'est le Grand Prix du Brésil où on a pu apercevoir dans le temps. Boula, il aimait bien, à mon avis, Ayrton Senna, l'illustre Ayrton Senna qui, justement, se disait dans ce fameux Grand Prix, Benji, du Brésil, trop d'humidité. On était en nage à chaque fois. C'est vrai qu'on voit encore une fois Verstappen et qui, égale un record de victoire encore une fois ce week-end.
Bah oui, on a Max Verstappen qui, à l'image de la saison, est ultra dominant dans une voiture ultra dominante. Sans surprise, il s'impose. Donc honnêtement, c'est sa 17e victoire de la saison, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, 17e victoire.
Hallucinant quand on prend du recul dans la domination de son sport sur une saison, c'est absolument fantastique. Donc non, sans surprise, il partait en pole position. Charles Leclerc qui était en première ligne aussi.
C'est ça.
À ses côtés, a eu un problème hydraulique sur le tour de chauffe qui l'empêche de prendre le départ. Donc ça aurait peut-être rebattu un petit peu les cartes. Voilà. Même si après, quand on prend du recul, quand tu vois le rythme des Ferrari avec Sainz. Je sais pas s'il aurait vraiment pu aller le bousculer. Il aurait pu le faire douter, comme Norris l'a fait dans les premiers tours, c'est-à-dire.
Avec Alonso, voilà.
Pour le coup, on a un Norris qui va
Aston
sur les trois
Martin sont bien présentes aussi. Oui, et je tiens à le rappeler parce que, vraiment, Mathieu le disait.
Je connais pas trop la Formule 1. Ouais. Alors, je voudrais que tu me dises. La comparaison. Est-ce que Verstappen. Comment tu dis
Verstappen.
Est-ce que c'est comme le ballon d'or, les 8 ballons d'or de trucs?
Non, pas encore.
Parce que si c'est comme les ballons d'or, parce que l'autre il en a 8 quand même. Il y en a 3-4 qui ne devaient pas en avoir.
Mais qu'est-ce que tu C'est une domination sur une saison. Ouais. Ça pourrait être comparable, si tu veux, à la saison des Invincibles d'Arsenal, si tu veux, dans l'idée. Ouais. De 2004, dans l'idée. Si on veut faire une comparaison, je déteste faire des comparaisons.
Aussi, c'est un procès. Mais c'est important parce que c'est du sport.
On va parler un peu aux auditeurs.
On a donné quand même 3 ballons d'or de plus à
Boula. C'est Boula, mais bien sûr. C'est toujours comme ça, Boula.
Là, pour le coup, si je peux pas.
Alors, vas-y, Ryan.
Effectivement, j'allais venir.
On va revenir aussi.
Pour le malheureux Charles Leclerc qui est le tour de formation, effectivement. Il s'est crashé avec sa Ferrari. Donc est-ce que question de malchance, c'est vrai que on peut se poser des questions s'il avait été OP pour cette compétition là, est-ce que ça aurait été différent face à Max Verstappen, pardon. Ça se pose, c'est une question qui se pose. Aujourd'hui, il en est à sa 17e victoire. Il a été champion du monde 3 fois.
Il le sera encore.
Voilà, Belge.
Magnifique saison, encore une fois. On restera et on gardera un œil de près concernant ce championnat qui est la Formule 1. Et on va revenir, c'est promis, sur l'antenne de Beurre FM. Allez, c'est la fin de cette émission. Avant la fin, on va récupérer Nasser. Et on va essayer de donner aussi la parole à Fouad. Bonsoir, Nasser. Buonasera. Il est avec nous, Nasser. Nasser, on a reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux et notamment sur le site internet de beurrefm.net. C'est vrai, Nasser, il fait le tour du monde, le tour des stades italiens de cette fameuse Serie A. On le voyait du côté de San Siro, on l'a aperçu après à l'Olympico de Roma. Nasser, comment ça va?
Ça va, écoutez, on va essayer de se reposer car vous le savez, demain soir, une rencontre très très importante du côté de l'AC Milan qui a été défait sur sa pelouse. Vous avez été en direct, bien sûr, sur Tansport Beurre FM ce week-end. C'était samedi soir, on y était face à Udinese 1-0. Et donc, demain soir, c'est le match le plus important, j'allais dire, de Stefano Pioli qui doit absolument s'imposer pour pouvoir encore continuer dans cette Ligue des Champions. À côté parisien, vous le savez, on s'inquiète plus du côté de Warren Zaïre-Emery. Car dans la presse italienne ce matin, toute la presse est d'accord avec ce joueur. Ils sont même plus inquiets sur Zaïre-Emery que Mbappé. En attendant, on attend aussi Donnarumma et Skriniar qui les attendent de pied ferme à San Siro. Je peux vous dire que ça va gronder dans les premières minutes de la rencontre de demain soir à 20h45 à suivre en direct et en exclusivité sur Tansport Beurre FM.
Warren, pur produit de Aubervilliers et pur produit de la Seine-Saint-Denis.
Exactement, joueur du 93 qui fait plaisir, qui fait penser un petit peu à Francesco Totti, lui qui a fait toute sa carrière à l'AS Roma. Et ben moi ce que je souhaiterais, c'est que ce garçon fasse exactement la même chose, marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est comme ça, il y a des joueurs comme ça qui ont marqué l'histoire du football. Vous regardez Zlatan Ibrahimovic, il n'a pas non plus le plus grand des palmarès, mais il marque l'histoire du Milan AC. Francesco Totti du côté de l'AS Roma, c'est la même chose. Et ben pourquoi pas Zaïre Emery et Mbappé, pourquoi pas, et qui n'aille pas du côté du Real Madrid et qui reste au Paris Saint-Germain, pourquoi pas. C'est ça aussi le football. Vous savez, ce week-end, on a vraiment senti des choses extraordinaires du côté du Stadio Olimpico. Et ben c'est ce qu'on a envie de retrouver en France, mais en Italie, c'est vrai que c'est la culture football, et on a envie aussi que dans le championnat de France, et notamment par le biais du Paris Saint-Germain, qui est la plus grande équipe de la Champions, d'ailleurs il l'a dit Stefano Pioli ce soir en conférence de presse, c'est le prétendant au titre, et donc c'est pour cette raison que demain on va se voir une autre équipe milanaise. Elle a été en danger face à Udinese, oui. Ils doivent s'imposer.
Ah ben voilà,
attention demain soir,
Nasser, tu es le zizou des consultants.
Nasser,
t'es notre zizou consultant. L'international, tu vas pas être transféré de Beurre FM à RMC. Il n'y a pas de transfert.
Moi, je préfère mon petit sandwich kebab tranquillement avec Beurre FM. Et si on est bien, vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne quand même le dernier résultat parce qu'il s'est quand même passé quelque chose en Serie A ce soir. La victoire de Frosinone à 70 km au sud de Rome qui accueillait Empoli, les buts de Cuny et Ibrahimovic du côté de Frosinone, et puis bien sûr Caputo qui réduit le score à la 86e. On se donne rendez-vous aussi en championnat de Serie A. J'en profite car vous le savez, c'est le derby ce week-end.
C'est ça.
Lazio de Rome à l'Estroma.
On va essayer de venir, Nasser.
Vous là, à tous, je vous fais des gros bisous.
Dans bras, Nasser. On va essayer de venir à Rome ce week-end. Il n'y a pas de problème. Une info avec Mondier.
J'ai une question à lui poser. Il est déjà parti. Il est parti à Rome. Il
est de partout. Il est parti, on s'écoute.
Bilal, tu nous as récupéré un beau potentiel.
C'est Boula.
C'est toi le patron.
Ça va être très intéressant de voir cette rencontre parce que, au match aller, il y a eu une rencontre sans en avoir une. On a eu un Paris Saint-Germain qui était ultra dominant, qui a littéralement mangé les Milanais de A à Z sur tous les aspects du jeu. Et donc, on espère voir l'adaptation milanaise, voir comment justement le coach de l'AC Milan va pouvoir s'adapter pour poser des
points. On verra bien demain.
Et c'est là où on va voir.
On le rappelle, demain, mardi,
victoire du PSG.
Victoire du PSG, c'est le groupe F, la quatrième journée sur les six face aux Milanais. Oui, on t'écoute.
Oui, tout à fait. Je profite de la fin d'émission pour parler d'un sujet qui m'a intéressé durant les semaines précédentes.
Oui.
Alors, la Ligue 1 est-elle moins attrayante? C'est la question que s'est posée l'équipe et je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Franchement, on a un début de saison, certains sont mitigés, pensent que c'est la pire année, la pire saison pour la Ligue 1. Eh bien, quelques stats, la Ligue 1, il y a 10 ans, c'était 800 buts par saison. Donc la saison 2003-2004, il y avait eu 800 buts en une saison. Si on remonte à l'année dernière, donc plus récemment, c'était aux alentours de 1000 buts, exactement 1067.
Beaucoup plus. Beaucoup plus, merci du rappel sur la.
Tout à fait, tout à fait.
Non, vraiment...
Et pour finir, on a eu des matchs nuls ce week-end. Vous voulez savoir quelle est la stat récemment du nombre de buts par match? Et il faut savoir qu'on a 2,35 buts par match en ce début de saison. Donc c'est un peu moins que l'année précédente où c'était 2,8 buts par match, juste derrière. Donc la Bundesliga qui a un taux élevé de buts par match et la Première Ligue.
Ah ben voilà, les infos avec Solal. Allez, la parole aux éditeurs, aux auditrices rapidement avec Fouad. Fouad, il a bien teasé, Nasser, il est bon.
Nasser, il est son moral, il est son humanisme, il nous fait de la géographie, il nous ambiance, il nous fait du football. Ouais, 10 sur 10, franchement.
Il nous vend des Grecs.
Il nous vend des Grecs. Il faut prendre son contrat, il faut donner des choses à la belle demain.
Ah ben oui, justement. Fouad, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On espère vous avoir demain avant le match. Hein, on fera l'avant-match, c'est promis. On aura aussi Achille du côté de Milan en direct depuis son Siro. Un grand merci à Fouad, aux auditeurs, aux auditrices, à Adnan aussi de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Sans oublier Nasser et vous, les auditeurs, les auditrices. On se donne rendez-vous dès demain. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Restez à l'écoute. C'est Vanessa qui arrive à 21h, 23h. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.